Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais on ne va pas parler de la femme, hein, parce que compte tenu de ce que l'humanité est devenue et des défis qui, comment on va dire, qui nous attendent et auxquels nous sommes confrontés, en fait, la fête de la femme aujourd'hui, alors que l'humanité est en crise totale, n'a vraiment pas de sens en fait. Il faudrait faire une fête de l'humanité, carrément. Il y en a déjà une en France, la fête de l'humain, mais quand je dis de l'humanité, c'est du genre humain en fait. Faire aujourd'hui une fête pour la femme, sachant tout ce qui se passe en matière de pédophilie et de trafic d'enfants et d'avortement, vous avez vu, hein, je crois que la France va inscrire cela dans la Constitution. Et c'est d'ailleurs fort de café parce que derrière, l'Union européenne, à ce qu'on lit, va pondre une loi qui va autoriser la vente des fœtus, hein, des embryons, donc des bébés à naître, qui naîtront jamais, qu'on fabriquera probablement dans le but de la commercialisation. Et c'était déjà un peu la même chose lorsqu'on faisait, on proposait de faire les PMA, PMA encore ça passe, ou les GPA, tout ce que vous voulez, et où on avait autorisé les homosexuels à pouvoir adopter les enfants. C'est déjà la même chose, une fabrique d'usine à enfants. L'enfant n'est plus quelque chose de sacré, parce que l'enfant, c'était quand même le fruit d'un amour, et ça devient quelque chose. Un objet, voilà, fruit de rien. On pourra, si on a besoin d'argent, hein, aller trouver n'importe qui, tomber enceinte et puis vendre le fœtus. Et l'enfant, le bébé, ça devient quelque chose de. Je sais pas, ça n'a plus de sens. Ça a plus de sens. Donc c'est vraiment le genre humain qui est en crise totalement. Et parler de la femme là-dedans, bon, on va le faire parce que c'est la tradition, mais c'est. Ça n'a vraiment plus de sens parce que les enjeux se sont déplacés et c'est devenu, je ne vais pas dire ringard, mais pratiquement. Qu'on fasse une fête pour la famille, oui, ou pour célébrer les bébés à naître dans le cadre de ce que nous disons, dans le cadre d'un acte pensé, parce qu'on ne va plus seulement dire d'amour, ça peut aussi, vous savez, une femme a besoin d'avoir de faire des enfants pour se sentir femme. Donc avoir un enfant, c'est bien. Faire un bébé, c'est bien. Le faire toute seule, c'est pas vraiment ce qui était prévu, mais ça peut arriver. Du coup, vraiment, on est mal. On est mal parce que on voit que Monsieur Trump est persécuté en Amérique parce qu'il est précisément contre ce type d'agenda. Et on voit surtout que les scandales sont révélés. Les scandales sont révélés. Par exemple, la liste de Epstein, les Epstein Files, le monsieur qui gérait tout un réseau de trafic d'enfants et de sexe et sexuel avec les grands de ce monde, entre les enfants et les grands de ce monde, dans une île quelque part, on ne sait pas où. Et il n'y a rien qui se passe. Bon, on voit, tous les rapports arrivent, on dénonce. Le rôle pas de Facebook, on va dire Facebook, mais Facebook même était embrigadé, d'après ce que son pseudo-dirigeant a dit. C'est le FBI, le Deep State, qui commandait à ce qu'on ne puisse pas rendre compte des informations qui pourraient nuire au président Biden élu, donc dans des conditions vraiment, pour le coup, illégales. On ne va même pas parler démocratie parce que ça a plus de sens, complètement illégal. Et c'est de la fraude, c'est de la fraude. Si on censure des informations qui vont nuire à un candidat et de l'autre côté, on exacerbe les petits défauts de son opposant, c'est quelque chose d'illégal. Donc c'est frauduleux et ça n'a pas eu de conséquences. On a parlé des Panama Papers. La grande évasion fiscale, ou d'ailleurs le nom de M. Zelensky, notre acteur président de l'Ukraine, apparaît, bah, il n'y a pas de conséquences, il n'est pas le seul. Et si comme ça, c'est ainsi, tout ce qui sort comme scandale ne prête pas à conséquence. Mais par contre, Monsieur Trump, on va le suivre parce que peut-être il n'a pas bien déclaré ses impôts. On va faire un bouc émissaire, hein, un exemple. On va le suivre parce que on veut tout simplement pas de candidat qui viendrait des, comment on va dire, sortir toutes ces affaires, la revenir dessus et puis que la loi essaye de passer. Non, la justice elle-même, on ne sait pas si elle est collabo complice, on ne comprend plus rien, parce que la justice aussi peut se saisir des affaires sans que on puisse porter plainte. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il n'y a pas de class action de la part du peuple qui peut agir là-dessus. Bon, on est dans ce genre de crise profonde de l'humanité et de crise, on ne va plus parler de la morale. Parce que quand on dit morale, on dit le bien et le mal. Oui, c'est relatif. Le bien et le mal, ce n'est pas relatif. Sinon, il n'y a plus justice. Donc, il faut qu'on sache. S'il y a une justice, c'est parce qu'il y a le bien et le mal. Sans être manichéen. C'est évident. S'il n'y a plus de limite entre la fraude et là, ce qui est normal, bon, alors tout le monde va frauder. Et le pire, c'est qu'on va essayer de freiner celui qui précisément ne voudra pas frauder. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans le monde entier, je dis bien le monde entier parce que l'Afrique est concernée, avec des sociétés où ce sont les fraudeurs qui émergent comme étant les gagnants, entre guillemets, de cette société parce qu'ils peuvent, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire, il n'y a pas de limite. Et puis les autres, ceux qui fraudent pas, n'ont droit à rien. Alors c'est carrément le monde à l'envers. Et on a eu là le Super Tuesday est passé ce mardi. Et Trump, heureusement, les gens commencent à comprendre. Il a gagné. Dans 14 États sur 15, laissant Madame Haley, qui avait sa concurrente. Alors, c'est extraordinaire le parcours de Madame Haley. D'abord, c'est Trump, elle était gouverneure, c'est vrai, en Caroline du Sud. Et Trump, il la prend dans son précédent mandat et il la met ambassadrice aux Nations Unies, des États-Unis. Donc, après, elle, voilà, elle est candidate tout d'un coup. Elle se met à critiquer Trump et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que derrière elle, il y a toute la machine des démocrates et même un millionnaire ou deux, des donneurs anonymes pratiquement, qui sont tous de gauche, enfin de la démocrate, et qui financent Madame Haley, qui est républicaine. C'est quand même incroyable. Et tout ça parce que, comme on a dit, il n'y a plus de séparation entre... je veux dire, ce qui est convenable, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'un démocrate fait derrière Madame Haley, qui est républicaine, et dans une primaire, dans des primaires républicaines? Qu'est-ce qu'il fait? C'est simple. On essaye donc justement, on préfère une Madame Haley qui va continuer à corroborer l'agenda, hein, que vous connaissez, caché, à un monsieur Trump. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On est de gauche, on va rentrer dans la primaire de droite, on va essayer de faire éliminer le candidat qui ne nous convient pas. L'élection n'a jamais été faite dans ce sens. L'élection est faite pour choisir dans votre camp qui va vous représenter le mieux, c'est-à-dire à gauche, et non d'aller dans le camp adverse pour aller perturber le choix là-bas. Et faire monter quelqu'un qui est probablement, alors Madame Haley, elle a paru comme quelqu'un qui est entre espion, taupe, ou on ne sait pas trop bien, ou traître. Donc c'était assez phénoménal. Donc Madame Haley, elle apparaît comme ça, elle joue bien son rôle, parce que, figurez-vous, pourquoi elle arrête maintenant? Ça fait depuis qu'elle perd. Et elle part pas, elle part pas. Donc elle arrête maintenant parce que le jeu s'est trop vu, le jeu s'est trop vu. Ils avaient misé sur le fait que, à la longue, Monsieur Trump allait tomber, la justice allait le faire tomber, on allait l'accuser de tout et tout. Et le grand coup, surtout, c'était déjà de le disqualifier sur toutes surtout dans certains États, pour pas qu'il figure même comme candidat, c'est-à-dire que un État peut se donner, y pensait-il, se donner le droit de disqualifier un candidat à la présidentielle parce qu'il s'était érigé juge. Mais c'est hallucinant ce qui se passe en Amérique en ce moment. Et heureusement, la Cour suprême, juste avant le Super Tuesday, a dit il ne lui appartenait pas, elle, la Cour, de disqualifier un candidat aux élections présidentielles et que ça, c'était le travail du Congrès. Ah! Quand même, on s'est souvenu qu'il y a un congrès pour disqualifier les présidents et ce qui disqualifie un président, c'est l'impeach, l'impeachment. Il n'a pas été impeach. On vient après, on dit non, non, mais c'est vrai parce qu'il partait, donc on ne pouvait plus l'impeach, donc on devait le suivre à la justice. Mais il y a l'immunité présidentielle qui joue et pour beaucoup de choses d'ailleurs. Et cette immunité, ça ne s'appliquait d'ailleurs pas au cas, à la question du 6 janvier, quoique, bon, le 6 janvier, il était toujours président lorsqu'il y a une insurrection, ce qu'ils appellent insurrection, parce qu'il faut, on ne peut plus parler, hein. On ne sait plus quelle est la limite entre la liberté d'expression et ce que le camp, le nouveau camp nazi, va qualifier de trouble à l'ordre public. On ne sait plus. Alors, effectivement. C'est une circonstance aggravante si on est président, mais c'est pas à la le président relève pas de la Cour suprême, sa justice relève justement du Congrès des parlementaires. Et là, la Cour suprême elle a bien légiféré, mais seulement ce qu'elle accorde d'un côté, c'est-à-dire elle cède le fait qu'elle n'est pas elle n'a pas autorité à juger de l'impeachment, enfin à interdire un candidat d'être candidat, mais en même temps, elle revient sur dire oui, ben, le 6 janvier, il y a eu, donc il y a une sorte de flou qui reste là. Madame Allais, qui se rend compte que c'est déjà trop, elle allait trop loin, elle fait bien de se retirer donc de la course parce que on ne sait pas si la Cour suprême arrive à dire des choses, c'est pas lesquelles, à moins qu'ils aient déjà tout ficelé, qu'ils se disent que finalement on va dire non, 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 il était responsable. Mais le 6 janvier, qu'est-ce qui s'est passé lorsque M. Biden a été élu en fraude? Il s'est avéré. Il se passe qu'il y a aussi des files qui circulent qu'on veut pas, dont on ne veut pas en parler. Le Deep State a organisé tout cela. Le FBI était là, la CIA était là, les congrès, tout le monde était, ils étaient dans le coup en fait. Donc ils ont fait monter la sauce pour essayer de piéger M. Trump. Donc déjà depuis le début, c'est la même chose lorsqu'il y a eu tout ce cirque que la Russie a fait, Russie, Russie, comme le président Trump dit, Rocha, 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 qui aurait fait en sorte que M. Trump gagne. Mais alors là, maintenant, que va-t-on encore dire? Est-ce que c'est encore la Russie qui est devenue l'ennemi public américain numéro un, qui fait gagner Trump? Mais évidemment, non. Bien sûr que non. M. Trump gagne tout simplement parce que il a d'ailleurs fait un travail extraordinaire pour cela pendant les 4 ans où il était exclu, à éveiller la conscience des Américains, les informer. De façon pragmatique, c'est ce qui se passe effectivement dans le jeu de pouvoir. Et c'est là qu'on a vu les fake news, le deep state, leur association. Alors le deepfake, oui, c'est le deepfake, hein. C'est-à-dire lorsqu'on porte les masques, hein. Il y a des acteurs qui portent les masques, alors on ne sait pas si c'est eux ou si c'est pas eux. Donc le fake, le deep state et le fake, le deep et les fake news, ça donnait quoi? Ça donnait que Madame Allais a remporté 2 victoires seulement, mais qui sont très symboliques. Washington DC, à Washington DC, où c'est le fief de ce que M. Trump qualifie du marais politique, et puis dans le Vermont, chez M. Sanders, qui est d'ailleurs un petit coin rural. Paradoxalement, mais qui est de gauche. Et curieusement, il y a une association, Left Action, qui appelle à ne pas voter M. Trump parce que, vous voyez, les gens de gauche, ils sont sortis des gens, hein, parce que Madame Allais ne peut plus servir pas de pions, mais d'armes pour l'attaque. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui, un monde où tout est renversé. Vous aurez de plus en plus des informations négatives sur Trump et des informations très positives sur M. Biden, qui aurait fait ci, qui aurait fait ça. Bien sûr, au début, c'est lui qui arme Israël, et puis à la fin, il va, parce qu'il va être impeach, il va larguer, faire de l'aide humanitaire, largage. C'est d'un cynisme. Peut-être les derniers, comme on dit, ce que j'avais dit ici une fois, vous mangez avant de mourir, parce qu'Israël ne s'arrête pas, et d'ailleurs la Russie a bougé sur ça, parce que il y a eu une réunion en Russie avec le ministre iranien et la Chine, où la Russie avertit déjà lourdement que ben elle laissera pas faire ce qui se passe à Gaza. C'est pareil lorsque la Russie était intervenue en Syrie, parce que ben, si vous laissez faire, ces choses-là vous reviennent par la suite. La Syrie n'a pas été annexée depuis et détruite complètement grâce à la Russie. Et je crois que Gaza peut vraiment, vraiment compter sur l'aide de Poutine d'ici peu. Et ça sera, comme certains disent, bah oui, si Poutine fait cela, c'est le début de la guerre. Troisième guerre mondiale, ben, M. Poutine a prouvé que c'était un être qui était très réfléchi et qui avait la connaissance stratégique, une connaissance stratégique beaucoup plus avancée que les Américains et tout le reste, qui sont des beaufs, grossiers personnages. Bon, amis des radios silence, on a été plusieurs fois interrompus pour cette émission, mais en même temps, on a pu dire ce qu'on aurait pu dire. Je vous avais écouté Flash sur le monde par Elise Bock. Je crois que je ne l'ai pas annoncé dès le début. Je m'en excuse. Et je vous dis à bientôt.